Hello à tous, bienvenue au podcast L'amour que Dieu a pour toi. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, le message tant attendu de Marc chapitre 6. Donc c'est vraiment ce message, je viens de le terminer aujourd'hui dimanche. Donc, sans perdre plus de temps, on va commencer par une prière que John Stott disait avant de prédiquer. Notre Père céleste, nous nous inclinons en ta présence. Que ta parole soit notre règle, ton esprit notre enseignant. Et que ta plus grande gloire soit notre suprême préoccupation par Jésus-Christ notre Seigneur. Le thème de mon message, c'est parce que je fais le bien, on me persécute. Le texte que j'aimerais que nous puissions lire ensemble, c'est dans Marc au chapitre 6 et au verset 17, où il est écrit, car Hérode lui-même avait fait arrêter Jean et l'avait fait lier en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère, parce qu'il l'avait épousée. Donc, je pense que vous avez un petit peu compris qu'est-ce qui, un petit peu, il y a quelque chose qui joue pas dans ce verset-là. Hein, on voit une situation d'un frère, de une femme, hein, qui épouse un homme. Enfin, nous allons voir ça ensemble. Mais avant, j'aimerais juste vous raconter une situation qui s'est passée fin de cette année, début de cette année, décembre 2022, janvier 2023, je me rappelle plus la date. J'ai pu voir dans un réseau social qu'en fait, il y a une femme catholique de bonne réputation en Angleterre. Elle a été arrêtée, fouillée, détenue et inculpée de 4 chefs d'accusation. Vous allez me dire, waouh, qu'est-ce que cette femme a fait pour avoir tout ça? Et en fait, cette personne, elle priait en silence. Vous allez dire comment? Oui, cette femme, elle a été arrêtée, fouillée, détenue, inculpée de 4 chefs d'accusation parce qu'elle prie en silence en face d'une clinique d'avortement à Birmingham. Cette personne-là se tenait simplement debout, sans pancarte, sans protestation orale, sans prier à haute voix, juste parce qu'elle priait en silence. Cette personne se tenait simplement, la police, pardon, n'a pas abordé cette femme par hasard. Ils savaient, ils connaissaient la personne. Il savait que c'était une femme qui soutenait les femmes en crise de grossesse pour pas qu'elles avortent. Et la police avait en possession des photos d'elle à proximité du centre d'avortement à plusieurs reprises. Eux, ils avaient des preuves déjà. C'est pour ça que la police l'a arrêtée et l'a emmenée au poste de police. Au final de cette situation, cette femme, heureusement, Dieu merci, elle a été mise en liberté sous caution. Il faut comprendre au niveau légal que les autorités de Birmingham, ils envisagent dans un futur de criminaliser la prière, vous imaginez? C'est-à-dire que la prière est un crime, à proximité des centres d'avortement et de tout ce qui se rapporte à l'avortement, que ce soit au niveau prière, moyens verbaux, écrits ou conseils. À Westminster, en Angleterre, les députés, ils envisagent d'introduire des zones de censure en Angleterre et au Pays de Galles, l'article 9 du projet de loi sur l'ordre public, qui interdirait aux personnes qui aident ces personnes-là des personnes en crise de grossesse, d'influencer, de conseiller, de persuader, d'informer, de prendre de la place et même d'exprimer leur opinion à proximité d'un centre d'avortement. Vous imaginez jusqu'à où ça va? Ceux qui enfreignent les règlements, ils pourraient encourir jusqu'à 2 ans de prison. Moi, j'appelle ça de la persécution. C'est pour ça que le thème de mon message, c'est parce que je fais le bien, on me persécute. C'est-à-dire que vous pouvez même pas prier dans la rue pour ces personnes-là. Vous pouvez même pas aider les femmes qui sont en détresse de la grossesse, qui ont envie d'enlever leur enfant, qui ont envie d'avorter alors que c'est un péché, selon la parole de Dieu, selon les valeurs de Dieu, c'est un péché. Parce que Dieu, s'il a permis, pour vous les femmes, si Dieu a permis que vous ayez un enfant, des fois ça peut être un accident. Des fois, le Seigneur permet, mais peu importe la raison, si vous avez un enfant, vraiment, c'est parce qu'il y a une raison, parce que Dieu, il a un plan sur cette terre pour cet enfant. Même si c'est un accident ou pas. OK? Donc, voilà. C'est grave ce qui se passe. C'est grave la situation et c'est l'Angleterre. C'est pas la Corée du Nord, c'est pas l'Inde, c'est pas des pays où il y a des persécutions extrêmes envers les chrétiens. Et quand j'ai vu que c'était en Angleterre, c'était un double choc pour moi. Non seulement parce que la femme, qu'est-ce qu'elle a subi pour prier en silence, mais le fait que ça s'est passé dans un pays européen. Et ça, c'est quelque chose qui m'a doublement choqué. Et leur intention, en fait, le gouvernement, l'intention de déposer des motions de censure, des ondes de censure envers tout le pays. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment impactant. Parce que je fais le bien, on me persécute. 2 ans de prison, jusqu'à 2 ans de prison. Juste pour pouvoir aider quelqu'un. Juste pour conseiller quelqu'un. Aujourd'hui, nous allons voir 3 points sur le thème de la persécution dans divers événements de la Bible. En 3 points. Le premier point, c'est quand on dit la vérité, on me persécute. Dans Marc, au chapitre 6, au verset 17, il est écrit, c'est ce qu'on a vu avant, car Hérode lui-même avait fait arrêter Jean, il avait fait lier en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère, parce qu'il l'avait épousée. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire? C'est qu'en fait, Jean-Baptiste, il a dénoncé, Jean-Baptiste est un homme qui avait le courage d'affronter les gens. C'est un homme qui avait, j'ai pas le mot exact, mais quelqu'un qui avait un grand courage. Honnêtement, c'était un homme qui allait face les gens et qui disait, mais il faut que vous confessiez vos péchés, repentez-vous. Hein, quand il était dans le désert, il impactait les gens, il les mettait, il pointait du doigt leurs péchés, en fait. Et quand quelqu'un, il pointe du doigt le péché publiquement, en plus, hein, imaginez-vous, si c'est juste, vous dénoncez le péché à une personne et à personne d'autre, c'est bon. Mais imaginez-vous un Jean-Baptiste qui va dénoncer le péché d'Hérode et Hérodiade en public. C'est, les gens, ils ont, ces deux personnes, ils ont reçu la, ressenti la honte. Ils ont ressenti la honte de leur vie. Mais en fait, qu'est-ce qu'Hérode et Hérodiade, ils ont fait, en fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, c'est très simple. Ils ont péché. Ils ont péché. Leur situation, dans la Bible d'études Vie Nouvelle, c'est, ils ont appelé ça le mariage illicite, le mariage adultère. Comment ça, le mariage adultère? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avant que Jean-Baptiste y dénonce leur péché de mariage adultère, c'est-à-dire qu'il Hérode et Hérodiade ne pouvaient pas se marier, ils ne pouvaient pas être ensemble. Mais pourquoi ils ne pouvaient pas être ensemble? Parce qu'en fait, Hérode déjà et Philippe, ce sont deux frères. Ok? Hérode était marié avec une femme avant Hérodiade. Il était marié avec une femme. Ok? Et Philippe, son frère, le frère d'Hérode, était marié à Hérodiade. Qu'est-ce qui s'est passé? Hérodiade a laissé tomber son mari Philippe, qui est le frère d'Hérode. Et Hérode a laissé tomber sa femme, hein? Il a laissé tomber sa femme qui est la fille d'un, c'était la fille d'un roi. Et d'ailleurs, ça s'est pas bien passé pour Hérode, hein? Parce que son beau-père, le roi de, enfin le père de la fille là, il était vraiment pas enchanté de la situation. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Chacun a abandonné son mari et sa femme. Pour se marier avec quelqu'un qui ne devait pas se marier. C'est pour ça que c'est le mariage adultère. Et c'est pour ça que Jean-Baptiste a été le seul homme qui a affronté Hérode et Hérodiade en disant, mais vous ne pouvez pas faire ça. Tu ne peux pas prendre Hérode, tu ne peux pas prendre ta comme femme Hérodiade. C'est la femme de ton frère. Tu ne peux pas faire ça. C'est un péché. C'est contre les valeurs de Dieu. Vous comprenez maintenant? Et dans les versets suivants, on constate qu'Hérodiade était prêt à faire mourir Jean-Baptiste. Mais Hérode, il ne permettait pas. Vous savez pourquoi? Parce que Hérode, il aimait Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce qu'il disait, et Hérode, quand il voyait Jean-Baptiste, il disait les choses, il disait la vérité, il savait. Et en fait, il avait un respect pour Jean-Baptiste, Hérode. Et sa femme, elle voulait le faire. On voit dans les versets précédents, suivants, pardon, après les versets 17, on voyait que Hérodiade, elle était en colère, elle avait la haine, elle était enragée. Elle dit, je veux le faire mourir, cet homme-là. Parce qu'il nous a fait passer la honte, parce qu'il nous a dénoncé publiquement nos péchés. Ils ont enlevé ce qui était caché. Et on voit, vous pouvez lire Marc 6. C'est vraiment Hérodiade a essayé la première fois de le faire mourir. Jean-Baptiste, elle n'a pas pu arriver à cause d'Hérode. Parce qu'Hérode, justement, comme je viens de vous expliquer, il avait la crainte et il avait peur. Il aimait bien Jean-Baptiste. Il a dit non, non, non. Mais lui, le problème, c'est qu'il s'est retrouvé entre. Le problème, c'est que il s'est retrouvé entre deux oppositions, c'est-à-dire entre le fait que lui dise la vérité, ok, et puis que ça lui dérangeait forcément à Hérode, hein, ça le dérangeait et tout, malgré qu'il aimait Jean-Baptiste. Et l'autre position, c'est il avait peur de le faire exécuter, en fait. C'est pour ça que quand Hérodiade, sa femme adultère, j'en suis convaincu, il a dû lui dire, Hérode, mais vas-y, fais-le mourir, quoi. Et Hérode lui dit, non, non. Moi, je crains, j'aime bien Jean-Baptiste. Et c'est pour ça. Mais aussi, surtout, je suis convaincu. Et c'est que mon opinion personnelle, ça ne concerne que moi. Et c'est quelque chose d'extra-biblique, c'est-à-dire c'est quelque chose qui, pour moi, c'est que mon opinion personnelle. Je suis convaincu que c'est une protection de Dieu aussi envers Jean-Baptiste, parce qu'il pouvait déjà mourir cette fois-là. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? À cause d'avoir dit la vérité, il a été injustement mis en prison, arrêté, parce que quand vous mettez quelqu'un en prison, vous l'arrêtez d'abord. Donc si vous l'arrêtez d'abord, c'est qu'il y a eu la persécution. Donc, en résumé, Hérode a été persécuté pour avoir dit la vérité à Hérode et à Hérodiade, même si Dieu l'a protégé, mais même comme ça, en disant la vérité, Hérode l'a mis en prison, l'a persécuté, l'a mis en prison. Quand on dit la vérité, on me persécute. Le deuxième point que je voulais voir avec vous, quand on guérit, on me persécute. Dans Jean, au chapitre 5, au verset 16, il est écrit, c'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus ou persécutaient Jésus, dépendant votre version que vous avez, parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Vous allez dire, mais j'ai rien compris. Mais je vais vous expliquer. En fait, Jésus était à la porte des brebis. Hein, où il y avait une piscine qui était appelée en hébreu Bethesda. Ok, cette piscine-là, il y avait beaucoup de personnes malades, infirmes, qui avaient beaucoup de c'était des gens qui étaient couchés par terre partout et ils étaient tous malades. En fait, ils attendaient qu'un ange du ciel agitait l'eau de cette piscine. Et que le premier qui plonge dans cette eau-là, pendant que l'ange il agitait l'eau, la personne était complètement guérie, peu importe la maladie. Et vous allez me dire, mais c'est quoi cette histoire? Mais en fait, c'est la réalité. C'était un ange qui venait là, qui agitait l'eau et la personne était complètement guérie. Et il y avait un homme infirme depuis 38 ans. Vous imaginez 38 ans. 38 ans, avec une infirmité physique. Une personne qui n'arrivait pas à se lever, qui avait besoin d'aide pour qu'on l'aide à cette personne. Et Jésus était là. Et Jésus le voyait. Et comme Jésus était homme et Dieu, il savait que cet homme était malade depuis longtemps. Et en fait, Jésus, il a guéri cet homme infirme le jour du sabbat. Et c'était interdit par les pharisiens de faire tout travail. Même de guérir, c'était interdit. Hein? Vous vous rappelez l'aveugle-né dans un de mes podcasts précédents, où Jésus a pris de la terre et a fait de la boue et a appliqué sur les yeux de l'aveugle qui était né de naissance. Vous vous rappelez? C'était interdit faire ce travail-là pour les pharisiens. Pour les pharisiens, mais pas pour Dieu, pas pour Jésus. Hein? Vous vous rappelez le sabbat? Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'était interdit par les pharisiens. L'homme qui a été guéri a passé un interrogatoire de la part des pharisiens une fois qu'il a été guéri. Il dit, mais c'est qui cet homme qui t'a guéri? C'est qui? Comment ça se fait? C'est le jour du sabbat, on fait rien. Hein? C'était selon leur propre loi. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en fait, ils ont su qui c'était. L'homme qui a été guéri a dit, c'est Jésus qui m'a guéri. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Les pharisiens, ils ont décidé de quoi? De quoi? de persécuter et de faire mourir le Seigneur. Jean chapitre 5 verset 16. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus ou persécutaient Jésus parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Ils voulaient le faire mourir. Non seulement le persécuter, mais ils voulaient le faire mourir. Le propre Christ. Pourquoi? Parce que quand on guérit, on me persécute. J'ai voulu faire le bien, j'ai voulu guérir une personne qui était infirme depuis 38 ans. Qui ne ferait pas ça si on aurait le pouvoir? Qui ne ferait pas, mes frères et sœurs, de dire, j'ai le pouvoir et l'autorité, je vais guérir, je guéris cette personne. Ça fait trop longtemps qu'elle est par terre, elle a une infirmité physique, elle n'arrive même pas à se lever, elle n'arrive rien à faire. Vous le guérisserez pas? Vous le guérirez pas? Et malgré cela, en faisant le bien, en guérissant la personne, les pharisiens persécutent Jésus, ils veulent le faire mourir. Le troisième point, je vous remercie d'être arrivé jusque-là, mais croyez-moi, la fin est tout aussi importante. Restez vraiment jusqu'à la fin parce qu'il y a quelque chose que vraiment je vais vous laisser. Quelque chose pour vous spécialement, pour méditer, d'accord? J'en dirai pas plus, j'aimerais vraiment attaquer le troisième et dernier point qui est important. Quand on évangélise, on me persécute. Actes chapitre 13 au verset 50. Mais les Juifs excitèrent les femmes dévotes de distinction et les principaux de la ville. Ils provoquèrent une persécution contre Paul et Barnabas. Et ils le chassèrent de leur territoire. Je vais vous expliquer. Paul et Barnabas, en plein jour du sabbat, de nouveau la même histoire que comme avec Jésus. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Eux, c'était différent. Parce que eux, ils ont annoncé l'évangile à une foule de personnes. Les Juifs étaient présents. Et les mêmes Juifs, ils étaient jaloux de cette situation. Et ils s'opposaient à ce que Paul disait. Donc, c'est pas seulement ce que Paul disait, non seulement ils étaient opposés à ce que Paul disait, mais surtout ils étaient opposés à l'évangile, la parole de Dieu, de ce qu'il disait. Pourquoi? Parce que c'est marqué après que, en le contradisant et en l'insultant à Paul, les Juifs contradisaient l'évangile et insultaient Paul et Barnabas. C'est-à-dire que les Juifs ont rejeté l'évangile. Ils n'ont pas rejeté seulement Paul et Barnabas, ils ont aussi rejeté l'évangile de Dieu. Et Paul et Barnabas disent avec assurance, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu peur de cette représailles, de ces insultes, de contredire. Et Paul et Barnabas disent aux Juifs, c'est à vous d'abord, les Juifs, que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais, regardez le mais qui est là. Dans le verset biblique, lisez le chapitre acte 13 au début, vous allez voir. Mais puisque vous la rejetez, rejetez quoi? Pas pour les Barnabas, la parole, l'évangile, la parole de Dieu, et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, parce que l'évangile, ça apporte quoi? La vie éternelle. Et regardez comment ils terminent, Paul et Barnabas. Nous nous tournerons vers les non-juifs. Selon vous, comment ont réagi les juifs envers Paul et Barnabas quand eux, ils ont annoncé ça avec assurance à eux? Les juifs, ils ont parlé à des hauts fonctionnaires et personnalités de la ville. D'accord? C'est ce qu'on avait vu, les femmes de dévote distinction et les principaux de la ville, comme c'est marqué dans Actes 13, 50. C'est-à-dire toutes les hautes personnalités, ils les ont fait parler, ils ont fait comme un complot, ok? Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Les Juifs, ils ont provoqué une persécution envers Paul et Barnabas en faisant quoi? En les chassant de leur ville, de la ville où ils étaient en train d'évangéliser, pour avoir énoncé l'évangile. Et vous savez ce qui est le plus incroyable? C'est que même si Paul et Barnabas ont été persécutés, vous pouvez voir dans Actes 13, les non-juifs
Ils ont reçu l'évangile et la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, elle s'est propagée dans tout le pays, dans toute cette ville et le pays où ils étaient. Vous imaginez? C'est-à-dire que ça valait la peine d'être persécuté. Ça valait la peine d'être persécuté. Parce que beaucoup de gens ont pu être sauvés, ont entendu la parole de Dieu, ils l'ont reçue dans leur cœur, ils ont reçu la parole de Dieu. Même si après Paul et Barnabas ont été persécutés par les hauts fonctionnaires, la personnalité et les juifs. Donc ça valait la peine d'annoncer l'évangile. Et aujourd'hui, je peux vous dire, mes frères et sœurs, que ça vaut toujours la peine d'annoncer l'évangile. Pas comme une tâche, pas comme un ordre que le Seigneur nous a donné. Bien sûr, on doit annoncer l'évangile parce que c'est un ordre qu'il nous a donné. Mais pas comme une corvée, pas comme un fardeau, mais comme un devoir. Parce que si vous êtes sauvés, vous avez envie que votre prochain, votre voisin, votre patron soient sauvés aussi. Et vous allez tout faire pour annoncer l'évangile. Amen, mes frères et sœurs. C'est important que vous sachiez ça. Alors, quand on annonce l'évangile, quand on évangélise, on me persécute. C'était le troisième et dernier point. Rappelons-nous chaque jour, mes frères et sœurs, c'est une tâche que j'aimerais vous confier, une tâche que j'aimerais vous partager plutôt. Une tâche que nous devons nous rappeler chaque jour, de prier dans votre liste de prières, dans vos prières quotidiennes, de toujours laisser un espace pour tous ceux qui chaque jour sont persécutés et qui souffrent dans le monde. À cause de quoi? À cause de guérir des gens, à cause d'annoncer l'évangile, à cause de dire la vérité de l'évangile, à cause de dénoncer les péchés. Mes frères et sœurs, nous devons prier pour ces personnes. Nous devons aussi être conscients, en pleine conscience, et remercier, être extrêmement reconnaissant envers Dieu, pour ne pas être dans un pays qui ne persécute pas. Pardon, pour ne pas être dans un pays qui persécute, pardon. Hein? Nous devons remercier Dieu d'être dans un pays où on peut évangéliser dans la rue, où on peut parler de Dieu dans la rue, librement, sans persécution, comment dire, sans être arrêté, juste parce que j'ai annoncé l'évangile à quelqu'un, juste parce que j'ai donné un feuillet, juste parce que j'ai donné une Bible à quelqu'un. Soyons reconnaissants, mes frères et sœurs, dans les pays où nous sommes. Parce que la plupart de ceux qui m'écoutent viennent des États-Unis et de la France. Moi, je suis dans le pays en Europe, je suis en Suisse, mes frères et sœurs. Donc, soyons reconnaissants de la liberté religieuse. Soyons reconnaissants de pouvoir librement, sans être persécutés, sans être arrêtés, d'annoncer l'évangile. Bien sûr qu'aux États-Unis, il y a des arrestations, j'ai vu. Au Canada aussi, il y a des arrestations. Mais après, je ne vais pas entrer en détail, mais tout dépend comment vous évangélisez. Et je vous le dis honnêtement, la plupart des gens qui sont arrêtés par la police, j'ai vu au Canada un grand évangéliste qui se fait insulter, qui se fait humilier, qui se fait arrêter par la police, mais simplement que pour moi personnellement, et je vais ouvrir cette parenthèse et la fermer très très rapidement, la manière d'évangéliser par rapport à la personne, comment elle fait, je préfère, moi, évangéliser de 1 à 1. C'est-à-dire, je préfère évangéliser une personne et pas prendre un mégaphone et commencer à parler pendant 1 heure ou dans un métro. Personnellement, je préfère parler de personne à personne. Bon, voilà, c'est un choix personnel, d'accord? Voilà. Mais je me suis rendu compte que souvent les gens qui crient à haute voix, qui parlent pendant 1 heure, qui crient à haute voix, à un moment donné, ça attire l'attention, ça dérange les gens. Et la police vient aussi. Et vous pouvez me dire, oh, mais alors ça veut dire que tu as peur d'annoncer l'évangile dans la rue? Non, c'est pas ça. C'est juste qu'il y a des manières de faire comment évangéliser. Et moi, j'ai reçu des formations comment évangéliser. Je vais vous expliquer maintenant pourquoi, comme ça va vous enlever tout doute, d'accord? Moi, je suis pas une personne qui évangélise par mégaphone, ni par métro, ni dans la rue comme ça en criant et tout, parce que je pense que j'aurais plus de voix. Ok? Donc, c'est pour vous dire, moi, je préfère aller par deux, comme Jésus faisait, aller par deux et d'aborder une personne, un homme ou une femme, quand on est deux personnes, hein, aborder un homme, une femme et de parler de la parole de Dieu. C'est plus personnel déjà. On crie pas, on voilà. C'est moins, comment expliquer ça? Plus discret, mais on fait le travail d'évangélisation, vous comprenez? Donc moi, je préfère plus cette voix-là que d'utiliser un mégaphone et de crier parce que je vois que vraiment, malheureusement, pour mes frères et sœurs en Christ qui font ça, la police vient. Voilà, c'est compliqué, vous comprenez? C'est comme au Canada, justement, il y avait une personne qui a évangélisé dans tout un groupe de personnes homosexuelles. Et vous commencez à parler comme ça devant un grand groupe de personnes, ça devient difficile, vous comprenez? Mais c'est que mon opinion propre, et moi je préfère honnêtement d'aller deux par deux comme Jésus faisait, d'aller deux par deux et d'aller évangéliser des personnes, une ou deux personnes en même temps, et d'aller évangéliser les personnes. Moi je préfère honnêtement, mais c'est un choix personnel. D'accord? C'est un choix personnel. Et je ne reproche rien à mes frères et sœurs en Christ qu'ils font par mégaphone ou quoi que ce soit. D'accord? C'est important. Avant de passer à la conclusion de ce message, je sais que c'est long, c'est 25 minutes, mais croyez-moi, j'arrive au bout. J'aimerais vous laisser méditer dans trois passages bibliques qui parlent de la persécution. Même si aujourd'hui vous ne vous sentez pas concerné par la persécution, croyez-moi, quand vous allez voir, on va lire ensemble et je vous laisse méditer. Et je crois que ça va vous donner une réflexion. D'accord? Je vais vous donner des choses que j'ai pu comprendre à travers ces textes. D'accord? Le premier, c'est Matthieu chapitre 24, versets 7 à 13. C'était pas prévu que je mette ça dans ce message. Mais Seigneur a permis que vraiment il a insisté pour que je vous partage cela. On va lire ensemble. Matthieu, chapitre 24, verset 7. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un autre royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Bien. Ce premier verset, vous voyez, ça reflète bien la Russie avec l'Ukraine, la Turquie et la Syrie, tremblements de terre, sans compter les autres tremblements de terre qu'il y a eu, des famines, des différentes souffrances. Dans le verset 24, dans le verset 8, pardon, du chapitre 24 de Matthieu, tout cela ne sera que le commencement des douleurs. C'est ce qu'aujourd'hui l'Église vit actuellement. Matthieu chapitre 24, verset 9. Alors on vous livrera au tourment. Et là, c'est important que vous sachiez ça. On vous livrera au tourment. Et l'on vous fera mourir. Ah, pourquoi? Et vous serez haïs de toutes les nations. Ah bon? Pourquoi? À cause de mon nom. À cause de quel nom? À cause du nom du Seigneur Jésus. C'est la persécution. On vous livrera en tourment. J'ai essayé, je me rappelle, quand j'avais vu la première fois ce verset, j'ai pris toutes les comparaisons bibliques dans la langue française pour voir ce qu'il disait. Et en fait, ça veut dire on vous torturera. On vous martyrisera. C'est-à-dire que les gens seront torturés et l'on vous fera mourir. Et ce qui est, vous savez ce qui est intéressant ici? C'est pour ça que je ne sais pas si je vous avais dit au début du podcast que c'était un podcast quand même qui était assez impactant. C'est qu'en fait, c'est tout au futur là. Comme c'est Jésus qui parle là. Hein. On vous livrera, c'est au futur. On vous fera, ça sera au futur. Et vous serez, ça sera au futur. C'est-à-dire, je vais vous dire quelque chose maintenant. Et vous serez haïs de toutes les nations, ça n'a jamais existé dans toute l'histoire de l'humanité. Que toutes les nations persécutent les chrétiens à cause du nom de Jésus, ça n'a jamais existé jusqu'à maintenant. Vous comprenez, mes frères et sœurs? C'est-à-dire que ça doit s'accomplir, ce texte. Ce texte, il doit s'accomplir. Il y aura des guerres et des rumeurs de guerre, des famines, des tremblements de terre. Et après, on persécutera les chrétiens, on les tourmentera, on les torture, on les fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de nous. C'est-à-dire que chaque personne va savoir que vous êtes chrétien. Et chaque personne va rigoler de vous, va vous humilier, va vous insulter, comme Paul et Barnabas ont pu expérimenter. Ils ont été insultés, ils ont été contredits. Et c'est ça que l'Église pourrait va vivre ça. Maintenant, c'est une question de savoir est-ce que le Seigneur Jésus va nous enlever avant que ça s'accomplisse cette prophétie ou pas? Telle est la question. Parce que normalement, le Seigneur est censé enlever l'Église avant la grande tribulation. La grande tribulation, c'est quand l'Antichrist il va se proclamer Dieu, cet homme-là sera homosexuel, c'est biblique, hein, si jamais, et il va promouvoir l'homosexualité dans le monde entier. Vous comprenez? Et tous ceux qui n'accepteront pas la marque de la bête, comme c'est écrit dans Apocalypse, ils seront exécutés, ils vont mourir. Vous comprenez? Ça rejoint ce que dit Matthieu 24, 9. Dans le verset 10, alors plusieurs succomberont, plusieurs tomberont, et ils se trahiront entre eux, ils se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, se faisant passer par Jésus alors qu'ils ne sont pas Jésus. Et qu'est-ce qui se passe? Ils séduiront beaucoup de gens. Ils séduiront à travers leurs fausses prophéties. Et le verset 12, parce que l'iniquité sera accrue, c'est-à-dire le péché, l'iniquité, c'est le péché, ça va grandir, grandir, grandir à un tel point que l'amour du plus grand nombre de personnes, il va se refroidir. L'amour envers Dieu, l'amour envers notre prochain, il va se refroidir. Mais Jésus nous donne une promesse dans le verset 13. Mais celui qui persévérera, j'ai la peine à le dire, persévérera, celui qui persévérera jusqu'au bout, jusqu'à la fin, sera sauvé. C'est-à-dire, celui qui est persécuté, qui est torturé, et qui même en étant torturé, par amour au Seigneur, et qui il va jusqu'à mourir, par amour au Seigneur, il sera sauvé. Mes frères et sœurs, ma prière de maintenant, c'est que si nous devons passer par cela, que vraiment, l'amour ne soit pas refroidi envers Dieu et envers notre prochain. C'est ma prière. Que l'amour en tant que chrétien ne se refroidisse pas. Que l'amour envers Dieu et notre prochain ne se refroidisse pas. Que nous allions jusqu'au bout, même si nous devons donner notre vie, mais que nous puissions aller jusqu'au bout. Et nous serons sauvés. C'est une promesse. Parce que c'est de nouveau marqué au futur. Celui qui persévérera. Pas celui qui persévère ou qui a persévéré. Il sera dans le futur. Il sera sauvé. C'est quelque chose qui doit s'accomplir, mes frères et sœurs. Le deuxième verset. Jean, au chapitre 15 et au verset 20. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. C'est Jésus qui parle. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Et écoutez ce qu'il dit, le Seigneur Jésus. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. C'est-à-dire, si vous annoncez l'évangile, ils vont garder l'évangile. Ils vont garder la parole. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Et regardez, je crois que c'est le verset le plus clair que ça, on ne peut pas expliquer, mes frères et sœurs. Plus clair que ça, on ne peut pas expliquer. Et c'est le Seigneur Jésus aussi qui a... Enfin, c'est Timothée, c'est Paul, l'apôtre Paul, pardon, qui a parlé ça. Dans 2 Timothée, au chapitre 3, verset 12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Vous avez entendu ce que l'apôtre Paul a dit? Tous ceux qui veulent vivre pieusement, tous les chrétiens qui veulent vivre vraiment avec le Seigneur, ils seront persécutés et c'est au futur, seront persécutés. Je vous laisse ces trois passages pour méditer. Je vous expliquais beaucoup de choses, c'était pas prévu, mais le Seigneur a vraiment insisté pour que je vous parle de ça, surtout de Matthieu. Et les deux autres versets, c'est vraiment, vraiment clair que vraiment nous devons avoir cette conscience. que si nous ne sommes pas persécutés physiquement, voilà, les gens nous font mourir. Il y a plein de manières d'être persécuté, d'accord? Mais voilà. Donc voilà, c'est pas forcément physique seulement. Et ça peut être spirituel, c'est plein de persécutions, et ça c'est important que vous compreniez. Il y a plein de manières d'être persécuté. Donc voilà. Mais là, de ce côté-là, de Matthieu 24, c'est vraiment physique. Parce que on vous torturera, donc c'est le côté physique, et on vous fera mourir, c'est physique. Donc voilà. En conclusion, nous pouvons être persécutés en disant la vérité. Nous pouvons être persécutés en guérissant les personnes. Nous pouvons être persécutés en annonçant l'évangile. En tant qu'Église actuelle, sachons-le, personne n'est à l'abri de la persécution à cause de notre foi en Jésus. Personne n'est à l'abri. Et maintenant, vous savez pourquoi personne n'est à l'abri. Par Timothée. Mais sachez que peu importe les circonstances, écoutez bien, peu importe les circonstances, les souffrances, la persécution, peu importe de quel type que ce soit, que vous allez traverser dans votre vie, nous ne devons jamais renier le Seigneur. Nous devons être fidèles, même si c'est jusqu'à la mort physique, et si le Seigneur permet, alors soyons fidèles jusqu'à la mort, si le Seigneur a permis. Mais soyons fidèles, parce que le Seigneur, il a dit, nous devons persévérer. Matthieu 24, 13. Persévérer jusqu'à la fin. Comme le Seigneur est fidèle, nous devons être fidèles au Seigneur, peu importe les circonstances. Et sachant que personne, et c'est important, que personne ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Et ça, c'est une promesse. Personne ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Nous arrivons à la fin de ce podcast. Si aujourd'hui, en écoutant ce podcast, vous avez pris peur, vous êtes inquiété, vous êtes, peu importe, je veux que vous sachiez que Dieu vous aime. Et que vous pouvez vivre une vie avec le Seigneur. Peu importe les circonstances de votre vie, aujourd'hui est le jour du salut pour vous. Si le Seigneur est là pour vous, des fois le Seigneur va nous délivrer des persécutions, mais des fois le Seigneur va permettre. Et des fois on n'a pas les réponses à tout. Vous comprenez? Il y a plein de chrétiens qui n'ont rien fait. C'était une injustice et ils sont morts. Le Seigneur a permis. D'accord? Le Seigneur a permis. Il a permis. Donc, nous devons nous confier en Dieu et laisser faire le plan de Dieu agir dans notre vie. Et aujourd'hui, vous pouvez faire, si vous voulez, désirer accepter Jésus comme votre Seigneur et Sauveur, je vous encourage à faire cette sainte prière avec moi. Le seul fait de faire cette prière ou une autre ne vous sauvera pas. Seule la foi en Christ peut vous sauver du péché. Ce modèle de prière n'est qu'un moyen d'exprimer à Dieu votre foi en lui et de le remercier d'avoir pourvu à votre salut. Répétez après moi. Dieu, je sais que j'ai péché contre toi et que je mérite une punition. Mais Jésus-Christ a pris cette punition que je mérite sur lui-même, afin que par ma foi en lui, j'aie accès au pardon. Je mets ma confiance en toi pour mon salut. Merci pour ta grâce merveilleuse et ton pardon pour le don de la vie éternelle. Amen. Voilà mes frères et sœurs, c'est la fin de ce podcast. N'oublie pas l'amour que Dieu a pour toi. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, d'accord? Des circonstances, n'ayez pas peur. Le Seigneur est avec vous et il vous abandonnera pas, il sera toujours là pour vous. Ok, amen. Donc, à bientôt pour un prochain épisode. Le Seigneur vous aime et il a un plan pour votre vie, ok? Amen. Prenez soin de vous. Bonne semaine à vous.